l'œil écoute. Eh bien, je crois que parallèlement, on peut dire que l'oreille voit. Et l'oreille voit des choses, l'oreille peut voir des choses qui nous échappent.
Radio Esperanza.
Il y a quand même peu de choses hein, qui échappent à la radio éphémère du festival. En tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas échappé à la radio du festival, c'est que pendant 10 ans, le festival a mis World Music Festival sur son affiche et qu'elle a disparu, cette phrase, cette année. Alors on en discute quasi chaque année de la World Music, de la musique du monde ou des musiques du monde au pluriel. Cette année, on a préféré avec Aymeric en discuter sous l'angle de la presse, des médias, comment ils en parlent, comment on en parle, comment on diffuse en fait, en quelque sorte, et comment on la fait découvrir aux autres, la musique du monde. Et donc, on a autour de la table avec Aymeric des invités qui sont professionnels du genre, puisque ce sont trois journalistes, enfin un presque. Le presque, je vais le présenter tout de suite, c'est Étienne Bourse. Bonjour Étienne, habitué de l'antenne éphémère quand même du festival. Je dis presque parce que t'es pas journaliste à la base, mais tu as animé pendant 7 ans une émission à Musique 3 qui vient d'être déprogrammée pour la rentrée prochaine. On va en discuter, je pense, dans cette émission. À côté de toi, Étienne, il y a Benjamin Tollet qui écrit pour l'Agenda, qui a écrit aussi pour le Standard. On va en rediscuter. L'Agenda, c'est un petit canard à Bruxelles pour ceux qui nous suivent en dehors de la Belgique. Et enfin, à ta droite, Benjamin, il y a Philippe Manche du Soir, qui est un journal national ici en Belgique, que tout le monde connaît en Belgique, mais peut-être moins en France. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors je vais tout de suite dire aux auditeurs et aux auditrices qu'on va vous tutoyer avec Aymeric parce qu'on se connaît en fait, par des réseaux différents, et qu'on va pas faire semblant de pas se connaître.
D'accord. On va essayer de les tutoyer.
Alors première question, Aymeric, que tu voulais poser à nos trois intervenants.
Et donc voilà, bonjour à tous, bonjour Julien et bonjour chers invités. Parler des musiques du monde, comme Julien l'a dit, on en parle chaque année. On va en parler avec vous cette année, la presse et les musiques du monde. Donc moi je propose de revenir un petit peu justement à ce concept de musique du monde, World Music, dont on a associé notamment Peter Gabriel avec son label Real World, qui était un peu la base de tout ça. Et on peut aussi dire que bon, à la base c'était un concept de marketing, à savoir bon, une étiquette, une nouvelle étiquette après toutes les autres, une étiquette pour tout, où on peut mettre un peu tout. Qu'en est-il dans la presse justement? Quelle est votre opinion par rapport à ça? Est-ce que c'est ça que vous avez dans votre média, l'étiquette fourre-tout, ou autre chose? Est-ce que voilà, différentes approches, comment vous le voyez?
Philippe, quand on a préparé ce débat, je me souviens que tu me disais, mais moi, je peux pas intervenir dans cette émission, j'écris pas sur la musique du monde. Et à la réflexion,
tu écris quand même. Tout ça. Mais oui, bien sûr, parce que le concept de musique du monde est tellement large que le reggae est considéré comme une musique du monde, l'afrobeat aussi, comme des chants mongols ou de la musique soufie, donc c'est vraiment très large. En tout cas, en ce qui concerne mon média, il n'y a pas vraiment de rubrique spécifique à la World. Il y a des albums qu'on chronique comme d'autres, avec la petite mention dans les critiques de disques du MAD, où on met reggae ou World, ou etc. On précise un peu, mais il n'y a pas vraiment de rubrique proprement dite, comme il n'y a pas non plus de rubrique hip-hop, bon, étant un quotidien généraliste, donc ça surfe un peu, le panel est beaucoup plus large. Donc voilà, ça s'inscrit naturellement dans l'actualité. On aura sûrement l'occasion d'en parler un peu plus tard, j'imagine, autour de la table. On n'en fait peut-être pas assez, comme d'autres musiques aussi, parce que ça reste quand même... C'est pas vraiment à part, parce que la musique du monde est vraiment partout, et pas que dans les festivals, elle est dans la pub, elle est au cinéma, mais c'est vrai qu'on n'a pas parfois accès non plus à des petits groupes, comme à des petits groupes de hip-hop underground aussi, donc il faut peut-être plus aller chercher aussi. J'ai bien répondu ?
Presque. Hein. On va voir ce qu'Étienne Bourse en pense, puisque Étienne Bourse, je le disais, n'est pas journaliste à la base. Il se définit comme un amateur de musique et non pas comme un musicologue ou ethnomusicologue. Pourtant, ce qu'il est quand même quelque part, hein, puisqu'il a écrit quand même une bible sur les musiques folkloriques et du monde.
Et tu me coupes, hein, si je me trompe. Un dictionnaire.
Je n'ai pas encore fait la bible.
Non.
Alors, dans ton émission Terre de Son, qu'elle soit plus programmée sur Musique 3, on y reviendra tout à l'heure. En espérant qu'elle continue ailleurs, cette émission Terre de Son, est-ce qu'on employait le terme musique du monde, et qu'est-ce qu'il recouvrait, ou qu'est-ce qu'il recouvre? Je vais parler au présent.
qu'est-ce qu'il recouvre? Mais c'est-à-dire que forcément, on employait le terme musique du monde parce qu'il fallait, il faut toujours coller une étiquette. Bon, d'accord, on est parti là-dessus en disant qu'est-ce que c'est les musiques du monde. Et finalement, pendant les 7 ans d'émission, je suis tout le temps revenu là-dessus, qu'est-ce que c'est les musiques du monde. Et j'ai un concept extrêmement large des musiques du monde que je considère un petit peu comme la plateforme centrale. C'est-à-dire, ce sont au point de départ des musiques traditionnelles qui ont influencé énormément de musique. Donc, mon émission étant sur Musique 3, elle me permettait, comme je l'ai fait dans certains écrits, de développer le fait que ce sont des musiques qui ont influencé le classique, le jazz, que au fond, si on regarde le blues, c'est une musique traditionnelle au point de départ, qui est née de différentes influences, que les musiques traditionnelles ont influencé la chanson française, la balade, c'est au point de départ une forme de chanson traditionnelle qui a influencé la chanson française, qui a influencé la balade anglo-saxonne, qui a influencé la musique country, qui a influencé le blues via une certaine forme d'écriture de paroles, évidemment. Et donc, pour moi, c'était ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéresse, c'est non seulement de défendre des musiques dont on parle peut-être trop peu, mais c'est aussi de défendre une façon d'écouter les musiques, c'est-à-dire ne pas cloisonner les choses, pouvoir les décloisonner en disant, mais quand vous écoutez ça, quand on écoute tel type de musique, tel type d'expression, ce qui m'intéresse, c'est que les musiques sont avant tout des expressions, c'est de dire, c'est intéressant parce que ça a évolué comme ça, ça a influencé comme ceci, on s'en est servi comme ça, etc. Et donc, pour moi, c'est ça le concept, et j'ai pas du tout envie de cloisonner les choses, parce que je suis un passionné de rock, je suis un passionné de blues, donc je n'ai pas du tout dit, moi, il n'y a que les musiques traditionnelles qui m'intéressent, mais c'est vrai que ça m'intéresse foutrement, si je peux le dire comme ça, parce que ce que j'aime, c'est les musiques, avant qu'elles ne soient considérées comme des produits, puisque de plus en plus, aujourd'hui, on les considère comme des produits, forcément, puisqu'on produit de la musique, y compris en musique du monde, forcément, il y a un marché, avant qu'on les considère comme ça, avant qu'on les considère même comme de l'art, ou de l'esthétique, c'est avant tout une série d'expressions. Et bon, j'ai cité le blues qui était peut-être un des plus beaux exemples, et donc c'est ça qui m'intéresse au point de départ, et je pense que très souvent revenir à ce qu'on appelle entre guillemets les musiques du monde, ça permet de revenir à cette essence même, à ses racines, on peut le dire comme ça.
Voilà, bah, pour rebondir, c'est vrai que il y a, oui, je relance Benjamin, ne t'inquiète pas.
C'est beaucoup de signes en radio.
Non, c'est juste pour, voilà, c'est vrai que pour en fait, voilà, Étienne propose des grilles de lecture dans ce concept assez fourre-tout et commercial que sont la world music. Étienne propose des pistes de lecture parce qu'il y a aussi la question dans ce concept de world music de dire, bon, bah, c'est des musiques qui finalement on va prendre des influences et puis on va essayer de faire de rendre accessible pour tout le monde, en fait. Moi, je le comprends aussi un petit peu comme ça. Il y a aussi cette idée-là, cette ambition. Alors, il y a le côté commercial, il y a aussi l'ambition, une forme de vulgarisation, des choses comme ça. Benjamin ?
Oui, moi, j'ai absolument rien. Enfin, moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait un terme pour décrire ce genre de musique. Moi, plus ou moins que sur les musiques du monde, avec le reggae qui est inclus dans les musiques du monde, et j'ai fait aussi un peu de les musiques urbaines parce que personne d'autre le fait, qui ne sont pas vraiment partie des... Enfin, il y a une partie des musiques urbaines aussi avec des influences de musique du monde, donc par exemple Acro qui vient de sortir son nouvel album, il y a un morceau qui s'appelle Ake Mundele avec chanteur congolais et des guitaristes et tout ça, c'est du soukous hip-hop, c'est des musiques du monde forcément. Mais moi je trouve que c'est bien d'avoir un terme, mais je remarque dans les médias tu viens avec une proposition, je suis journaliste en musique du monde, alors ils vont dire ah non, ça c'est pas nous, c'est eux, ou enfin c'est directement, c'est une, en fait dès qu'on dit le mot musique du monde, il y a une porte qui se ferme. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez bizarre.
Mais c'est marrant, je voulais juste rebondir à ce que tu disais. C'est pas anodin non plus que tu fasses le hip-hop et les musiques du monde sont un peu, voilà, pas les moutons noirs, parce que c'est pas juste, c'est totalement injuste envers tous ces artistes fabuleux qu'on adore, mais c'est vrai que par rapport à nos employeurs, c'est pas comme du rock ou de la chanson française ou de la pop ou les grosses superstars.
Ouais, ouais. Et moi, j'ai écouté beaucoup de métal quand j'étais jeune et tout ça, mais après, quand je suis devenu journaliste, je veux pas écrire sur tout ce qui est pop, rock, électro, parce qu'on a que ça dans les médias. Moi, justement, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir autre chose dans les médias, la diversité dans les médias.
Bien sûr.
Alors, je rebondis sur ce que disait Aymeric tout à l'heure. On sait pourquoi on vous a invité tous les trois, parce que on considère avec Aymeric que vous êtes curieux. Je dis aussi aux auditeurs et aux auditrices qu'on a invité Didier Mélon qui s'excuse de ne pas pouvoir venir, qui anime tous les soirs sur la première, donc sur la RTBF, Le Monde est un village, qui est aussi présent d'ailleurs à Esperanza, qui n'a pas pu venir, c'est dommage. Mais en tout cas, on considérait que tous les quatre vous étiez curieux, puisque vous vous intéressez à d'autres musiques que pop-rock, que cette surreprésentation de ces musiques-là, que ce soit dans les médias traditionnels ou plus sérieux. Philippe, il y a des portes qui se ferment aussi au soir quand on prononce le mot musique du monde.
Non, c'est un peu excessif, mais c'est vrai que non, parce que bah, l'exemple aujourd'hui, c'est que la une du cahier culture, c'est Esperanza, qui a eu deux pages faites par mon camarade Julien Broquet là, sur Afrocubisme à Londres, qui est un des gros points forts de ce week-end. Donc non, mais c'est sûr que les occasions sont moindres. Ce que tu dis, c'est vraiment ça, c'est la surreprésentation dans les médias, dans toutes ses formes. S'il n'y a pas que la presse écrite, c'est aussi en radio. Les petits espaces comme le tien ou ceux de Didier sont quand même minimes par rapport à cette surreprésentation qui nous saoule aussi un peu. Donc c'est pas que c'est plus difficile d'en parler, mais les occasions se font plus rares en tout cas.
Et comment vous expliquez cette surreprésentation du pop-rock? En tout cas au soir, bon, on peut peut-être comprendre parce que c'est un généraliste, je pense qu'il y a ça aussi.
Ouais, bien
mais
sûr,
quand même,
ouais.
Il y a quand même beaucoup de pages consacrées au rock.
Ouais, il y en a par rapport. Alors, il n'y a pas que par rapport au hip-hop ou à la musique du monde, par rapport à l'électro, par rapport au reggae, enfin, je sais pas, des albums de reggae, le jazz. Okay. Le jazz, donc c'est vrai, ce sont des courants qui marchent moins, il y a moins d'argent derrière. Enfin, c'est toujours un peu, on va pas faire des débats de comptoir, mais c'est un peu ça aussi, les majors qui poussent leurs artistes. Mmh. Et finalement, tu lis n'importe quel journal et t'écoutes n'importe quelle émission de radio, c'est toujours les mêmes salades que t'entends. Donc, c'est vrai qu'il. Voilà, c'est important de préserver en tout cas les petits espaces de liberté qu'on a en toute humilité dans nos médias respectifs.
En fait, il y a deux styles de médias en Belgique, plus ou moins. Il y a les médias privés qui doivent vendre, et il y a les médias qui sont de l'État, enfin la RTBF et la VRT. Et je ne sais pas exactement, ça Étienne pourra peut-être me le dire, comment c'est chez la RTBF, mais la VRT, il y a des chiffres qui doivent atteindre, des auditeurs, et voilà, ils font tout pour atteindre ces chiffres. C'est pire que le commerce, presque.
VRT, qui je le rappelle, est un service public. Hein. Mm-hmm. On va discuter de Musique 3 tout de suite avec Étienne, puisqu'on rebondit. Ce petit espace de liberté dont parlait Philippe.
Justement, Julien, oui, je voulais relancer Étienne et cette question d'Audimat, service public. Pour rappeler, bon, Étienne fait son émission depuis 7 ans, hein, c'est ça, je crois,
oui, depuis mars 2004.
Mars 2004, ouais. Sur Musique 3. Je me suis quand même demandé à la base d'où était venue l'initiative. Est-ce que c'est eux, est-ce que c'est toi? Première question. Mm-hmm. Ensuite, qui a défini le concept, plus ou moins ce genre de choses. Mmh. Et puis, comment ça s'est maintenu et qu'est-ce qui a fait, bon, d'abord, je crois que tu étais au début une heure assez favorable, puis tu es passé le samedi soir. Est-ce que c'était déjà le début de la porte de sortie ou enfin voilà.
C'est très complexe. Hein. Je vais essayer d'être bref parce que c'est une saga. J'ai fait une expérience très intéressante à l'RTBF. Je fais beaucoup d'expériences intéressantes en travaillant dans la culture puisque j'ai travaillé 33 ans à la médiathèque avant où j'ai terminé aussi en expert, excusez-moi du mot, ou spécialiste en musique du monde, conseiller en musique du monde. Et je fais des expériences assez intéressantes mais assez négatives dans l'absurde où je constate que la culture c'est assez bordélique si vous me permettez l'expression. Alors ici, la RTB, c'est évidemment moi qui leur ai fait une proposition. J'ai commencé à faire des propositions d'émissions à l'RTB qui m'invitaient souvent. J'ai commencé à faire des propositions à la fin des années 80 pour avoir une émission à moi. Je leur proposais un style d'émission. J'ai fait des essais dont ils perdaient les bandes, ils me donnaient un studio, puis ils perdaient la bande, ils ne savaient plus ce qu'ils en avaient. Enfin, je vous passe les détails, je ne vous cite pas tous les noms. J'ai eu des contacts extra avec des gens comme Marc Moulin, qui est certainement quelqu'un qui m'a donné envie de faire de la radio, en fait, très certainement. Et Marc était persuadé qu'il fallait faire ça, et puis ça y est, ouvrir aux musiques du monde. C'était avant que Didier n'ait son émission, d'ailleurs, ça, hein, parce que Le Monde est un village n'existait pas encore quand moi j'essayais déjà. Mais ça ne marchait pas. Et puis, mais on m'invitait pour ceci, pour cela, est-ce que tu peux nous faire une émission, participer à une émission, bon, sur la 3, sur la première de temps en temps, enfin j'étais invité assez souvent. Et puis J'ai représenté donc un projet complet sur Musique 3 devant Gérard Loverius, qui était le directeur à l'époque, donc dans les années, en début des années 2000. Enfin, il a accepté tout de suite, donc c'était en 2004. Et ça l'intéressait. Il faut dire, pour vous expliquer comment les choses fonctionnent, que je venais de sortir le dictionnaire thématique des musiques du monde chez Fayard, et qu'évidemment, c'est une brique, et qu'évidemment, ça vous fait une carte de visite assez importante, et que ça impressionnait un peu. Et
pour les deux autres qui t'écoutent, prenez des notes.
Ça joue, c'est-à-dire, je dis pas ça pour me vanter, mais ça joue.
Mais si vous voulez faire de la radio,
c'est là. Mais je crois que je crois que Philippe sait ça aussi, puisque bon, il a écrit un livre sur Manu Chao, etc.
On bonne sait carte de visite aussi, Philippe.
Mais on sait que ça aide dans la mesure où c'est important et ça a un impact. C'est tout. C'est comme
ça. Quand même malheureux
de
devoir écrire un bouquin pour être un peu plus crédible auprès des directions.
Ça aide en tout cas. Bref, bon, j'ai eu cette émission.
C'est mon opinion.
J'ai eu cette émission et puis ça s'est super bien passé. J'ai eu les 2 heures que je voulais au point de départ. Puis c'est vrai qu'on a réduit à 1h30. Puis on a changé d'heure. Puis on a changé de jour. Puis on a rechangé d'heure. Puis le directeur actuel qui aujourd'hui me vire, mais il ne veut pas que je dise qu'il me vire, mais dit c'est terminé. J'ai pas d'autre mot. Me remercie sans doute. Et ben il y a un con qui a inventé le mot remercier pour dire on vous dit jamais merci, mais on vous met dehors. C'est ça être remercié, mais on ne vous dit jamais merci pour le boulot que vous avez fait. Pour des clopinettes en plus. Donc, bon, là, tout d'un coup, lui, il m'a dit, tu refais 2 heures. De lui-même. C'est génial, je refais 2 heures, j'avais 1h30, je refais 2 heures. Et il m'a remis à une meilleure heure, c'est-à-dire qu'on passait le samedi de 18 à 20 heures, ce qui est une assez bonne heure, parce que les gens sont chez eux, ils sont pas encore sortis, ou au moins je passais des soirées, j'ai enregistré la semaine, je passais des soirées chez des amis qui me disaient comment ça se fait que t'es là. Je t'écoutais dans la voiture en arrivant. Donc je pense que les gens écoutaient quand même assez bien, plus facilement à ce moment-là. Et donc voilà, ça c'est un peu l'histoire de cette émission. N'a jamais été mise en doute pendant les 7 ans. On ne m'a jamais dit écoute, on a peut-être des problèmes. On ne m'a jamais dit écoute, tu as des détracteurs. Aujourd'hui, on me dit qu'il y a des détracteurs, je ne sais pas où ils sont. Moi, j'ai plus de 160 mails de gens qui disent ne supprimez pas l'émission au stade actuel en 4 semaines. J'ai jamais vu un détracteur. On me dit ton audience est minable, mais je réponds l'audience de Musique 3 est minable, qu'on le veuille ou non. Dans l'ensemble, c'est pas terrible parce que c'est une chaîne qui fait du classique, du jazz et un peu d'autres choses, un peu de l'opéra, mais ça, on est dans le classique, etc. Les gens qui n'aiment pas l'opéra coupent à ce moment-là, et ainsi de suite. Les gens qui n'aiment pas la musique du monde coupent certainement pendant mon émission, c'est sûr. Mais les critères d'audience. Je ne les vois pas. Alors on me dit mais non, ça n'arrive même pas au seuil à partir duquel tu peux rentrer dans les critères. En fait, mais tout d'un coup, alors qu'on n'a jamais discuté, moi je suis prêt à discuter. Il est possible, probable, je ne sais pas, qu'on aurait pu améliorer, qu'on aurait pu. Je passais plusieurs séquences différentes. Je passais vraiment des musiques, parfois des musiques urbaines, alors, parce que tu parles de gens. J'ai passé Balogi, etc. Justement, tu vois les rapports aussi avec la musique africaine. Et puis après, je passais Grieg, Edvard Grieg, les rapports avec la musique traditionnelle dans la même émission. Ça, j'aimais faire ce genre de choses. On aurait peut-être pu, si on m'expliquait que ça dérangeait certaines personnes, qu'on aurait peut-être pu faire les séquences non pas en une seule émission, mais en faire une plus classique, en faire une plus... Je sais pas, donc, puisqu'on en a jamais parlé.
Mais donc, en fait, il n'y a pas... On voit pas vraiment de raison, quoi.
La raison est budgétaire.
Sur Musique 3, et voilà.
La raison est budgétaire.
En tout cas, c'est ce que répond la direction. Moi, j'ai personnellement écrit à la direction. J'invite d'ailleurs tous les auditeurs et les auditrices à écrire pour soutenir Étienne, si jamais ils veulent soutenir. On mettra un petit lien sur le site internet de Radio Esperanza. On mettra les 3 mails aussi pour qu'ils puissent écrire convenablement. Je pense qu'on parle aussi de service public. Donc, à un moment donné, le service public est financé par nos impôts. Je pense qu'on peut avoir un droit de regard aussi sur la programmation de Musique 3. La principale chose qu'on répond à l'auditeur en colère que je suis, c'est budgétaire, cette émission coûte trop cher.
En fait, Étienne n'est pas trop cher, mais c'est le technicien et le studio qui sont trop chers.
Je vois qu'on a eu le même mail.
Oui, authentique. Effectivement, oui, moi je suis pas cher, je ne le cache à personne, je gagnais 150 euros brut par semaine pour faire 2 heures d'émission, et avec une collection de disques, j'ai peut-être 10 000 disques chez moi, j'ai je ne sais combien de bouquins, avec un truc que j'ai accumulé pendant des années, avec les contacts que j'ai avec toutes les firmes de disques, avec je reçois des disques du monde entier, et ça coûtait 150 euros brut par semaine, et c'est trop cher. Voilà. Alors on me sort des choses. C'est pas vrai ça. Alors qu'on me dise, on en a marre de te voir, je sais pas, qu'on me dise d'autres raisons, mais ce n'est pas juste de dire ça. Ce n'est pas économiquement, c'est pas juste. C'est-à-dire que ce qui se passe, si vous voulez, dans des services publics, et là, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, ce qui se passe, c'est que à certains moments, il y a un directeur qui est le directeur des radios qui se tourne vers le directeur d'une chaîne et qui lui dit, il faut faire des économies. Et celui-là est occupé à autre chose. En l'occurrence, il était occupé à son festival Musique 3 qui, pour la première fois, avait lieu pendant le moment où il fallait refaire la grille. Et pour les 50 ans de Musique 3, ils ont fait un festival à Flagey. Et à ce moment-là, il ne s'est pas du tout occupé de la grille. Et puis finalement, il a eu très peu de temps pour le faire et il s'est dit, comment je vais faire des économies? Alors on fait ça sur papier, c'est-à-dire on dit, bah, machin, il coûte autant. Et puis ils ont supprimé Ciné-Son, qui était une très bonne émission aussi avec un extérieur sur les musiques de films. Ils ont supprimé Ciné-Son également. Gilles Remy faisait une émission magnifique, il est professeur à l'IAD, etc. C'est vraiment un type qui connaît beaucoup de choses en musique. Et on a supprimé deux extérieurs en se disant, bah, avec ça, on retotalise autant. Et dans les chiffres sur papier, bah, ça fait autant. Surtout si on ajoute les heures de studio, etc. Mais les heures de studio, il les faudra toujours. Voilà, ce sont des petits calculs.
Et ce que je trouve assez dommage, c'est que justement, c'est les services publics et que voilà, ils doivent pas. Enfin, c'est vraiment. Enfin, ça a l'air d'être la religion des chiffres des auditeurs. Alors que forcément, on est supposé montrer un peu la diversité aussi qu'il y a au sein de la musique ou de l'actualité, de quoi que ce soit. Donc, tous ces genres de musique différents devraient passer à la radio. Et moi, personnellement, je trouve aussi que chaque radio de la RTBF ou de la VRT devrait avoir des musiques du monde. Parce que aussi Pure FM, la musique pour jeunes, Classique 21 devrait passer de l'afrobeat, du reggae, enfin, disons, toutes les musiques des années 60-70, le classique rock. Ben, l'afrobeat fait partie de ça, de cette époque-là, même l'ethio jazz et tout ça. Et donc, toutes les chaînes, même la chaîne la plus commerciale que tu peux t'imaginer, ben, on passe la lambada, on passe des trucs comme ça. Pour moi, il faut des musiques du monde partout.
Mais je voulais juste, enfin, peut-être je me trompe, hein, mais il me semble, dans un des derniers sondages, Musique 3, avec des audiences certes modestes, c'était quand même une des seules radios de la RTB à avoir grimpé, non?
Ils avaient grimpé de 6% dans les derniers chiffres donnés.
Ce qui est quand même énorme, donc oui. Ça confirme quand même que les auditeurs, enfin, on parlait d'écoute et d'attention et d'offre. Quelque chose de différent, répondre présent à des cases qui sont peut-être un peu plus difficiles.
Tout à fait. Ça m'avait frappé d'ailleurs et ça m'a frappé qu'on dise juste après ça qu'il faut faire des économies et qu'il faut éventuellement supprimer certaines choses. Il y a probablement d'autres manières de faire des économies, je ne sais pas, j'ai pas vu les chiffres, mais en tout cas j'avais été frappé par ça parce que c'est le dernier sondage, il n'est pas très ancien, voilà, 2-3 mois maximum, mais c'était plus de 6%.
Mais c'est quand même un comble qu'un concept aussi vague que celui de Musique du Monde fasse peur. Enfin, qu'il ne trouve pas sa place, je dirais, puisqu'il est aussi vague et il est très ouvert, finalement. Donc comment ça se fait qu'il fait aussi peur? Enfin,
je crois pas voilà. Que ça fasse
moi, finalement,
peur,
je suis assez triste de cette discussion, parce que... c'est le marché qui décide, et puis voilà, donc...
Philippe, bon. Quand tu vas interviewer Sharon Jones, parce que tu l'as fait pour ton canard, ça fait peur?
Non, mais c'est à ça que je pensais, en fait, non, pas vraiment. Non, mais voilà, il faut... Alors, Sharon Jones, c'est un bon exemple, il faut réexpliquer, il faut expliquer l'importance des DAP.
Qui est Sharon Jones?
Le fait que Amy Winehouse avait enregistré à Brooklyn a beaucoup aidé aussi, donc ça va, je veux dire. Ça fait beaucoup moins peur que le hip-hop, mais par exemple, j'ai une anecdote précise, quand j'ai reçu l'unique album de Staff Benda Billy Lee, je l'ai écouté par hasard, j'aurais pu l'écouter 2 mois après, et j'ai tout de suite dit à mes boss que c'était vraiment incroyable et qu'il fallait faire un papier, donc on a fait un papier tout de suite. Je crois que la difficulté, en tout cas chez nous, c'est d'avoir accès aux disques, d'avoir accès aux artistes, parce qu'il y a tellement, on va plus nous demander de faire une interview de Zazie que de, chez Daka. Soudaka, par exemple, ou...
Alors, on va en parler, justement. Hein. C'est un des volets de cette discussion. On entendait Étienne nous dire, j'ai une collection de 10 000 disques chez moi, je l'ai ramené pour mon émission. Ça, c'est sa manière de travailler. Il avait sa liberté, donc, vis-à-vis de sa discothèque. Comment est-ce que vous travaillez, Benjamin, en presse écrite, pour l'agenda. Et toi, Philippe, comment vous travaillez dans vos rédactions? Tu viens d'en dévoiler un pan, hein, on attend des CD. Et quelle est la frontière entre faire partager une découverte avec ses lecteurs, tu pourras répondre aussi Étienne, ou promotionner un artiste? Parce qu'on est vraiment dans des frontières.
Promotionner, je veux dire, à partir du moment où ces artistes-là font l'actualité, c'est aussi le rôle d'un quotidien d'en parler, quoi, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que, on reçoit les disques, c'est via des firmes de disques, parfois c'est via des potes, parfois c'est via des MySpace, c'est vraiment beaucoup. J'adorerais avoir 3 heures par jour pour aller fouiner sur le net et me balader de site en site, et je crois que c'est comme ça qu'on découvre des choses. Je suis sûr que tu vas. Non, je t'en prie. Donc c'est vrai que c'est un peu limité pour nous. C'est un peu ce que je regrette, mais c'est ainsi, quoi.
Bon, moi j'écris surtout pour l'agenda à Bruxelles, et l'agenda c'est très simple. Bon, les artistes doivent venir à Bruxelles faire un concert, sinon ils passent pas.
Donc rattaché à l'actualité.
T'es rattaché à l'actu.
Ouais. Donc c'est très simple. Moi, il y a des artistes que je peux adorer, mais s'il y a pas de concert, on annonce des concerts en fait. Donc, et comment est-ce que je trouve? Je vais voir toutes les salles de concert, tous les concerts qu'il y a, et donc tous les 3 semaines, il y a une réunion de rédaction, c'est très simple. Alors, les groupes internationaux, ils sont plus ou moins connus. J'ai quand même aussi pas mal d'attention pour les groupes bruxellois, pour les groupes locaux. Et ça, c'est tout simplement parce que je connais plus ou moins tous les musiciens, au moins en musique du monde, en funk, en latin, tout ça, je les connais à Bruxelles. Donc, dès qu'il y a un nouveau groupe, je suis assez vite au courant. Et j'attends quand même toujours un an ou peut-être 2 ans avant de les ramener, parce que après, si tu les ramènes aujourd'hui et dans un an ils sortent un album, je pourrais pas je pourrais pas le faire 2 fois, parce que il y a quand même que 15 pages par semaine plus ou moins, et il y a toute la culture qui doit passer. Donc après, pour la radio, je fais de la radio aussi, donc pour Groovalisation, et là ça c'est une passion, donc je passe en effet 3 heures par jour à chercher de la musique plus ou moins, pas vraiment 3 heures par jour, mais c'est plus ou moins ça, c'est une passion. Avant c'était le MySpace était génial pour ça avant, le MySpace est mort, maintenant ça passe un peu via Facebook, via d'autres radios, via des sites, beaucoup internet.
Par exemple, je sais pas si c'est sur ton MySpace ou ailleurs, mais tu te définis, tu mets en avant journaliste, musique du monde, interculturel.
Ça c'est parce que j'écris aussi pour Bruxelles des Week, et là j'écris sur tout ce qui est interculturel à Bruxelles, qui n'est pas spécialement lié à la culture ou à la musique.
Dans l'agenda, non, ça c'est dans Bruxelles des Week.
Ouais, ouais.
Comment on défend un papier devant vos rédactions respectives? Étienne, tu avais à défendre. Je vais d'abord éliminer Étienne, parce qu'il va répondre très vite, je pense.
Il n'a pas de papier.
Il avait pas de patron au-dessus, jusqu'au jour où il s'est rendu compte quand même que...
Il a pas
J'en ai eu dans l'écriture.
Est-ce qu'on avait un droit de regard à Musique 3 sur ton émission, ou est-ce que tu avais une entièreté, une entière liberté sur ce que tu passais dans l'émission?
Non seulement j'avais une entière liberté, mais je regrette peut-être, sûrement, si c'est le cas, que le directeur n'écoutait jamais. Et donc, c'est une entière liberté fantastique. Et donc, je ne peux pas me plaindre, c'est ce qu'ils me disent d'ailleurs, d'avoir tenu 7 ans. C'est pas évident de tenir 7 ans en tant que pigiste à RTB. J'ai tenu 7 ans, c'est formidable. Ce qui m'embête, c'est de tenir 7 ans et puis de devoir sortir au moment où je sens que le podcast augmente, qu'il y a de plus en plus de gens qui m'en parlent. C'est très dommage, mais ça, c'est autre chose. Mais non, j'avais une entière liberté. Je pense qu'un des grands défauts, c'est qu'il n'y a pas assez de gens qui écoutent ça au sein même de la radio, et il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas un travail de fond, et donc chacun fait son truc, et on dit, Philippe Baron fait le jazz, on ne critique plus Philippe Baron, il fait le jazz, c'est très bien, Didier Mellon fait les musiques du monde sur la première, donc on a plus besoin de musique du monde ailleurs, etc. C'est un peu comme ça, maintenant il y a des tiroirs qui sont prédéfinis, on n'en discute pas tellement, c'est dommage. Ceci dit, je pourrais parler après aussi de l'écriture. J'ai fait beaucoup avec des gens au-dessus qui me disaient parfois écrit sur ça.
Mais ce que Étienne vient de dire, donc on contacte la RTBF et les Musiques du Monde, c'est Étienne Bourse. C'est quelque chose que moi j'ai eu avec la VRT. J'ai contacté Studio Bruxelles parce que je trouve absolument que. Donc Studio Bruxelles, c'est la radio pour jeunes, vraiment jeunes, donc c'est plus vraiment rock, c'est plus que le pop, ce style de festival. Et ils disent non, les Musiques du Monde, c'est pour Radio E, donc pour la première. Nous, on n'en a rien à voir avec ça. Alors moi je dis non, attends, mais les musiques du monde, c'est beaucoup plus que ça. Chez Onkuti, c'est pour des jeunes, ou des groupes comme Ojos de Brujo, Terracotta, des groupes qui font de la fusion, des groupes de hip-hop qui mélangent avec des musiques du monde et tout ça. Ça ne passe pas sur Studio Prusso. Ça ne passe absolument pas. Et donc, même une radio classique ou une radio... Enfin, les musiques du monde devraient passer partout. Et donc ça, c'est un grand problème, en effet, du mot. À ce moment-là, c'est le mot musique du monde qui a fermé la porte. Si j'aurais dit, ah, je veux faire un programme de musique urbaine de jeunes, peut-être que la programmation aurait pu être la même, mais peut-être qu'ils auraient accepté ça.
Bon, alors pour rebondir, c'est vrai, bon, moi je pense, enfin on parle de ces classifications, ces petites cases qu'on trouve chez Musique 3, chacun fait son émission, à Studio Bruxelles aussi, il y a des cases, Musique du Monde, non, cette case-là n'entre pas. Au soir, en revanche, Philippe, ça doit être quand même un joyeux bordel entre tous ces journalistes-là, il n'y a pas de case Musique du Monde, il n'y a pas de hip-hop, alors comment on fait pour faire sortir un article? C'est vrai que c'est assez rare, moi j'ai repérer certains trucs, hein. Il y a eu quelque chose qui a été fait sur un joueur de Timbila qui jouait au Beaux-Arts, une fois c'était signé stagiaire, il y a quelque chose qui a été fait une autre fois sur une chanteuse camerounaise, bon elle a quand même passé par les Ap Mama et tout ça, c'était aussi signé stagiaire, Angélique Kidjo, elle est quand même pas inconnue, donc bon, toi en lien avec les musiques du monde il y a eu héritage ici, il y a eu héritage
ouais.
Bon, non,
en fait stagiaire c'est le patronyme de Philippe,
ouais. C'est mon autre code. Oui héritage, mais non, mais tu rigoles. Ah.
Mais donc voilà, bon. Mais oui, héritage, donc on disait.
Ben, héritage, parce que j'ai des potes qui étaient impliqués dans le projet et qui m'ont branché là-dessus. Et c'est très compliqué à expliquer, mais on souffre. Enfin, on a du mal à. On a tellement à. On court parfois plusieurs lièvres à la fois, donc c'est pas évident. Et c'est vrai que parfois, il arrive. Ah, tiens, il y a quelque chose au Beaux-Arts, il faudra en parler. Mais c'est vrai que. Ouais, ça arrive toujours un peu en dernier, mais on le disait tout à l'heure, c'est vraiment par réseau et héritage, bah, passer des potes, et voilà, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi, Je voulais rebondir avec ce que tu disais aussi tout à l'heure par rapport à la pertinence d'écrire un papier, alors c'est vrai que, je sais pas, sur Accro, bon, on en a parlé plusieurs fois, on va plutôt attendre qu'il y ait une tournée, que faire l'article, qu'écrire le papier à la sortie de l'album, pour vraiment que ça soit dans un... accompagner ça dans une globalité, parce que bah, les pages se réduisent, les pages culture, faut pas rêver, même les pages culture chez nous, il y en a de moins en moins, il y a souvent, quand il y a une pub en plus, on sait pas où la mettre, on va la mettre en page culture, mais plus en page culture qu'en politique, parce que de toute façon, la culture reste le parent pauvre, faut aussi parfois avoir le courage de le dire, de la presse, quoi. Et puis même chez moi, bah, un bête exemple par rapport qui est, je crois, assez révélateur par rapport au MAD qui est sorti mercredi, où on a eu une réunion, enfin où on a eu une discussion avec un de mes boss quant au choix de la une.
Ah. Je peux dire ce que c'était que la une.
Ben, je vais le dire, mais tu peux. Alors le choix de la une, donc il y avait plusieurs sujets. Il y avait donc, je le rappelle, le super papier de Julien là sur afrocubisme. Et il y avait aussi la sortie des Schtroumpfs. Alors, on argumente en disant, voilà, Esperanza, c'est en tout cas un festival que le soir soutient depuis le début. C'est une exclusivité aussi, pour répondre aussi à ce que tu disais, Julien, comment est-ce qu'on vend un article, bah, c'est ça aussi, on argumente, voilà, donc c'est l'exclu, c'est deux pages, c'est vraiment le highlight du festival, blablabla. Et puis, bah, voilà, la rédaction donc au-dessus a décidé que, bah, voilà, les petits bonshommes en bleu étaient plus fédérateurs que... Ça veut tout dire, quoi.
Rédaction du MAD qui est actuellement... le nom de la personne, juste parce que j'ai l'impression que ça a un petit peu changé. Il y avait Jean-Claude Van Troyen qui gérait le MAD à un moment.
Il y a
plusieurs personnes en plus. Ouais, non, c'est pas ça. Hein.
Mais ce qu'il y a, c'est que voilà, tout est tellement hiérarchisé qu'à un moment, la personne qui fait l'édition va dire voilà, bon, le MAD, c'est quoi ça, hop, les Schtroumpfs. Mais c'est ce qu'on sait par rapport à la musique. Donc tous les journaux, le mercredi, ont des petits bonhommes en bleu en une. Voilà, et finalement, tout le monde lit la même chose, et c'est pas comme ça qu'on va se différencier aussi, quoi.
Et ça, c'est un problème, bon, qui existe pas seulement chez Le Soir, hein. Le fait de la publicité, bah, il y a une page en plus chez Le Standard, c'était automatiquement aussi la page culturelle, hein, ouais. Toujours. Et donc, ça, c'est vraiment, c'est tous les journaux qui travaillent comme ça, et je ne sais pas si c'est le cas chez Le Soir, mais je sais que chez Le Standard, ça allait aussi loin, qu'en fait, le chef culturel ne pouvait, enfin, il était vraiment pas libre à faire ce qu'il voulait sur ces pages culturelles, parce que par après ça devait être checké ou contrôlé par ce qu'il y avait au-dessus de lui. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de lui? C'est le rédacteur en chef et le marketing. Donc le marketing décide ce qui vient dans le journal.
Ouais, c'est vrai, s'il y a des accords, 30 secondes, des accords, des partenariats, par exemple, au Beaux-Arts, le soirée partenaire, donc on se réveille la veille, il y a un festival au Beaux-Arts, on fait un papier. Donc c'est vrai qu'il y a cette contingence, si je peux dire, vraiment économique, en tout cas partenariale, qui joue, et c'est vrai. Donc forcément, c'est de la place qu'on prend au détriment d'autres groupes et artistes. Je dis pas que ça vaut pas la peine, mais en tout cas, ça a un impact dans les choix des sujets.
Alors, on va en revenir juste après. On va souffler deux minutes avec un peu de musique du monde, quand même, parce que sinon, on colle pas bien totalement au sujet. Je ne sais pas, c'est Aymeric qui l'a préparé. Je vais lui laisser juste la présentation de cette petite musique. Juste qu'on va rediscuter après sur cette emprise du marketing sur les rédactions et aussi sur la musique du monde, parce que ça aussi, c'est assez neuf. Finalement, cette emprise, même si ça existe depuis longtemps dans le milieu de la musique.
Voilà, on va écouter un extrait justement de la compilation Héritage. Si c'est prêt, si Frères Ennemis, je crois que c'est le nom de la chanson, c'est en place. Ouais.
Ben... Alors ça s'appelle Meublé.
Mais Héritage, ceci dit, Héritage, super projet. Hein.
Alors allons-y, parlons un peu d'Héritage.
Super projet.
C'est un projet donc...
De la communauté européenne à la base.
Et qui a à voir avec les 50 ans d'indépendance.
Exactement.
Ouais.
Je crois que c'est l'équipe de Skinfama qui est derrière.
Ils ont fourni Pichot et...
Oui. Tant qu'à faire, je peux dire, j'ai aussi passé Héritage dans mon émission sur Musique sur Nantes. Comme quoi, nous sommes tous d'accord. C'est quand même la preuve que on est sur la même longueur d'onde.
Tout à fait lié à l'actualité politique ce coup-ci. Et c'était pas en soi-même un événement musical qu'on aurait pu mettre en avant pour ça.
Mais pour la même longueur d'onde, pour rebondir, c'est 106.2 sur autour de Floref.
2010, man. 50 years, can you believe that?
Voilà, toujours sur Radio Esperanza pour le festival Esperanza, émission de débat autour des médias et des musiques du monde. Alors, pour relancer peut-être, si tu permets, Julien, je pensais à un petit extrait d'un...
Je te permets tout.
Super. De Franck Tenaille, un journaliste français qui a posté quelque chose sur le Centre des musiques traditionnelles en région Rhône-Alpes, qui parle du secteur des musiques du monde. Bon, il se remet dans le contexte du fait que c'est vrai que c'est un secteur qui fonctionne avec des bouts de ficelle, qui est assez jeune aussi, il faut quand même le souligner. Et il dit que les gens de ce secteur, artistes comme professionnels, ont défriché des territoires. En même temps, ils ont dû s'en faire les passeurs, voire même les historiens. Bon, ça rejoint un peu la question qu'on avait tout à l'heure sur comment est-ce que vous faites promotion, machin, bidule. Je pensais à Benjamin qui, lui, s'est assez vite aussi lancé dans le soutien à des artistes. Donc faire au-delà que écrire quelque part, soutenir des artistes, les programmer dans des festivals, ce genre de choses. Ça t'est apparu comme quelque chose indispensable parce que tu t'en rendais compte des limites peut-être du journalisme ou bien...
Non, c'est plutôt vraiment les limites du marché dans le cas où ces artistes ne sont pas représentés par des professionnels. Donc beaucoup, beaucoup de groupes belges en musique du monde, en musique africaine et tout ça, mais aussi des groupes même internationaux n'ont pas d'agents, n'ont pas de managers, n'ont pas de bookers. Et donc, c'est pas facile d'arriver sur les Esperanza et Couleur Café de ce monde. Donc il y a vraiment un grand manque de professionnalisme dans le secteur. Ça, c'est quelque chose assez frappant, je trouve. Ouais.
Bah, je ne sais pas si tu voulais rebondir sur ou si je me suis écarté trop du sujet, mais
je peux rebondir. J'ai l'impression que, encore une fois, et ça ne s'applique pas qu'aux chroniqueurs musicaux, que ce soit Musique du Monde ou ailleurs, il n'y a aucune objectivité de la presse. On parlait tout à l'heure de j'insiste, hein, aucune objectivité. On parle de subjectivité, on parle de musique, on parle de ressenti, on parle de réseau, on parle de personnes, de rencontres. J'ai vraiment l'impression, à vous écouter depuis tout à l'heure, qu'il n'y a aucune objectivité dans ce que vous faites, en tout cas, tous autant les uns que les autres dans vos médias. Est-ce qu'il y a une objectivité de journaliste qui est Philippe Manche au soir?
De toute façon, t'as bien résumé. C'est, de toute façon, la musique, c'est quelque chose de tellement passionnel qui va te parler d'une manière qui va peut-être pas me parler, ou les deux. Donc forcément, c'est subjectif. Et heureusement.
Et je pense que d'ailleurs dans le soir, c'est quand même, il y a quand même, voilà, ça se ressent. Moi, je vois un petit peu les différentes personnes. Bon, il y a Didier Stiers qui fait sur la musique, il y a Thierry Coljon, il y a toi, Philippe, il y a
Julien Broquet.
Lui qui est très branché festival, il a fait aussi des choses sur des vieux festivals. Voilà, il s'intéresse vraiment là, aux événements, quoi. Mais vous avez en même temps un petit peu quand même chacun vos fibres, on va dire, voilà, la subjectivité, comme tu dis, ça se ressent aussi.
Moi, je préfère même en tant que lecteur, je préfère lire un papier engagé, quelqu'un qui va donner son point de vue, qui va dire ça c'est vraiment bien parce que ça fait penser à tac tac, que quelque chose qui soit fade et insipide. Enfin, c'est pareil pour des critiques de bouquins ou des critiques de films, quoi. Il faut que ça soit engagé, et on l'est pas assez, ceci dit.
Moi, je crois pas du tout dans l'objectivité des médias. Ça, c'est une bulle qu'ils ont lancée il y a longtemps, que les journalistes devaient être objectifs et tout ça. Déjà, personne n'est objectif.
Sûrement pas en culture.
Mais même sur le point de vue politique ou international, même la personne qui va vouloir être hyper objective, elle sera objective à partir de sa propre culture. Et donc, pour quelqu'un d'Afrique, d'Amérique du Sud ou des États-Unis, ce ne sera pas du tout objectif. Enfin, parlons par exemple du conflit Israël-Palestine. Comment est-ce qu'on peut être objectif? Ça dépend si tu es israélien, américain, belge, palestinien, arabe ou juif.
Ou alors il faut travailler pour une agence de presse et se concentrer uniquement sur les faits de telle date, malheureusement tel attentat, tel truc. Sinon, effectivement.
Étienne, mais je pense qu'Étienne était très objectif et très objectif dans Terre de Comble.
Non, je ne dirais pas ça. Non. C'est très difficile d'être objectif, effectivement. Et d'abord, on est d'abord, mes deux comparses ici ont tout à fait raison, on est d'abord subjectif, c'est très passionnel, on a envie de transmettre quelque chose qu'on aime. Et je lis le soir tous les jours et je vois très bien les différentes signatures. Je vois même, parce qu'on ne citait pas Jean-Claude Van Troyen tout à l'heure, mais lui aussi est capable d'écrire sur la musique et sur un coup de cœur, en fait. On sent tout de suite que lui va sortir un disque qui a été un coup de cœur pour lui, et tout d'un coup, y compris en musique dite du monde, d'ailleurs, j'ai déjà lu des choses que lui écrivait aussi là-dessus. Donc non, je pense qu'on réagit d'abord par subjectivité. Ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire, il n'y a pas que la subjectivité, il y a tout un travail derrière. On est plus ou moins des spécialistes, on est obligé d'être dedans tout le temps, donc on se spécialise plus qu'une simple subjectivité qui est simplement passionnelle. Il y a autre chose, il y a une histoire derrière, c'est sûr. Mais de là arriver à l'objectivité, je pense pas, même si on essaye d'élargir le spectre et de ne pas oublier d'autres choses. On oublie quand même toujours, où on donne plus d'importance à ce qu'on connaît mieux aussi, qu'on connaît mieux, parce que on parle bien de ce qu'on, pas seulement de ce qu'on aime, mais de ce qu'on connaît, de ce qu'on a appris à connaître. On parle moins bien de ce qu'on connaît moins bien, et on a parfois un peu l'humilité de se dire plutôt que d'en parler mal, je vais pas en parler, etc. Donc il y a quand même ça aussi. Et par contre, cette subjectivité que nous avons, à mon sens, elle se heurte à quelque chose qui n'est pas du tout l'objectivité de nos médias, mais que eux appellent objectivité, et qui est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les raisons commerciales, mercantiles, l'obligation de la publicité, l'obligation de répondre à un annonceur, l'obligation de dire attention, les gars, on vous invite ici à un voyage de presse, etc. Vous pouvez pas aller vous promener à New York, etc. Et puis après, ne rien faire. Bon, et on est coincé dans des trucs. Même moi qui ai écrit dans des journaux beaucoup plus spécialisés, pas dans des quotidiens, j'écris dans des revues spécialisées musicales, en France notamment, je me suis retrouvé confronté à ce problème. Ou après un voyage de presse,
il y a des représailles.
J'avais des problèmes, etc. Oui. Ou alors on me dit écris là-dessus. Pourquoi? Ben parce qu'ils vont mettre une publicité. Ah. Tiens, et alors qu'avant on me disait n'écris pas trop là-dessus. Pourquoi? Mais parce que t'as été invité, et on n'aime pas trop que parce qu'on est invité, on se sent obligé d'écrire beaucoup. Donc ils jouaient sur un amalgame très très difficile.
Alors ce que c'est rarement le lecteur ou la lectrice d'un journal spécialisé musique du monde. Il y en a deux. Hein. Il y en a un qui est suisse. Je vais pas citer son nom parce que tout le monde le connaît. Je vais le citer. Voilà, allez, Vibration. Allez. On sait très bien que pour avoir une chronique de CD dans Vibration, il faut prendre un encart publicitaire la plupart du temps. C'est quelque chose qui se pratique. C'est quelque chose qui est peu su par le public qui le lit. Il y a très peu de transparence, en fait, en quelque sorte, dans les enjeux qu'on a dans les chroniques CD. Est-ce que, par exemple, au soir, on pratique ce genre de choses?
Non.
Tu peux avoir un joker. Hein.
Non, je pensais pas à ça. Non, sachez bien que je peux en avoir un, mais on n'est pas ici pour avoir des jokers. Donc... Mais je pensais. Enfin, c'est vraiment tout con, mais ça me fait encore bien rigoler 15 ans après. Donc, il y avait une fois un déplacement de presse à New York pour Phil Collins. Et le concert, enfin. Voilà, bon, désolé à tous les... Il doit sûrement avoir beaucoup de fans de Phil Collins qui nous écoutent, donc on peut y aller, il n'y a pas de souci. Et j'ai descendu le concert parce que c'était vraiment pathétique. Enfin, c'était pas bien. Alors, en toute objectivité, parce qu'il chantait mal, parce que les musiciens... Enfin, voilà. Et je sais qu'après, les voyages suivants... Enfin, on parle pas de Paris ou d'Amsterdam ou Londres. Ben, j'ai été blacklisté, en tout cas, par cette firme de disques pendant quelques années, quoi. Parce qu'on t'offre 3 jours à New York dans un bel hôtel, en avion, et il faut absolument dire du bien. Mais je crois que la crédibilité, elle s'acquiert aussi en étant honnête. Je crois qu'il faut aussi faire son examen de conscience aussi. Mais je crois que, par contre, ça peut jouer chez les jeunes journalistes qui sont indépendants, qui sont prêts à tout, qui vont aller 2-3 jours à Los Angeles ou à New York, peu importe, interviewer, encore une fois, peu importe qui, mais qui vont être influencés par ça aussi, quoi, par le côté un peu événementiel de leur reportage.
Benjamin, dans un journal comme l'Agenda, qui est fort subventionné, hein, ça faut le dire aussi, qui a une partie publicitaire, est-ce qu'on ressent aussi cette pression ?
Pas vraiment, parce qu'il y a des pages fixes, et après, en fait, l'Agenda fonctionne avec des spécialistes, des freelancers en tous les styles. Donc moi, je fais tout ce qui est reggae et musique du monde, et musique urbaine. Il y a quelqu'un d'autre qui fait le jazz, quelqu'un qui fait le rock, et en fait... le marketing, justement, là j'ai vraiment du bol que le marketing n'a rien à dire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de marketing chez Agenda. Je ne crois pas qu'il y a une. Enfin, il doit y avoir une personne qui s'occupe du marketing, mais il n'y a pas de style. Non, c'est vraiment la rédaction qui décide, et c'est une rédaction très, très progressive. Donc, moi je fais chaque fois mes propositions, et puis bon, ça dépend. S'il y a le Clara Festival ou le Marni Jazz en septembre, ben, il y aura un peu moins de place pour les musiques du monde, c'est logique. Et après, il y a Couleur Café, ben, j'ai 4 pages. Donc ça, c'est un peu logique, c'est l'offre du marché, quelque part, qui joue. Et heureusement, à Bruxelles, l'offre du marché est très favorable aux musiques du monde. Bon, c'est un peu dommage que Flagey, par exemple, est tombé dans... Enfin, avant, il y avait des musiques du monde, ce n'est plus le cas. Mais il y a quand même beaucoup de musiques du monde à Bruxelles, et donc j'ai le bol de décrire pour un agenda qui est subventionné et qui a... Donc, bah, j'ai quand même 1 ou 2 interviews par semaine, ce qui est quand même énorme comparé aux journaux belges.
On voulait parler aussi un petit peu avec Julien, on peut peut-être aborder, je sais pas, on a encore
on a la question à Violaine, hein, je te rappelle.
C'est la question pour... à Violaine,
mais vous verrez, c'est après.
On parle un peu de censure à l'intérieur des journaux. Tu voulais aborder la question aussi de la censure au niveau de la production, parfois, de certains artistes de musique du monde. Pas censure, mais adaptation au marché.
Je parle pas de censure, mais d'adaptation au marché. C'est vrai que j'avais cette anecdote sur Tiken Jah Fakoly, qui va passer demain ici, hein, dernier album. Beaucoup de paroles ont été retouchées par une artiste française, dit-il, hein, je cite, hein, pour qu'il soit plus entendu ou encore mieux entendu en Europe. Est-ce que ça, c'est quelque chose, c'est ça, hein, qu'on avait décidé. Est-ce que ça, c'est quelque chose?
Je comprends pas très bien la question, parce qu'il y a beaucoup de chanteurs qui n'écrivent pas leurs paroles, tout simplement. Césaire Alé, voilà, c'est une des plus grandes chanteuses de musique du monde. C'est la plus grande chanteuse africaine, peut-être aujourd'hui, parce que Myriam Makeba est décédée et elle n'a jamais écrit un texte. Donc.
Non, je parlais d'adaptation à un public européen. On en a discuté les années précédentes, notamment avec Étienne, sur des artistes qui se réadaptent par rapport à un marché qui est le plus lucratif, c'est-à-dire celui d'Europe, notamment les artistes du Sud.
Je crois vraiment pas que ça soit un procès d'intention et de ta part et de la nôtre, surtout pas à Tiken Jah. Je crois que, enfin, son engagement est tel qu'il a envie de toucher un maximum de gens.
Je pourrais citer Youssou N'Dour avec 2 discographies différentes, une pour l'Europe, une pour l'Afrique.
Et je trouve que c'est tout à son honneur de peut-être fluidifier ses textes pour être le mieux. Il y a des chanteurs, il y a un groupe de rock francophone très connu qui a fait corriger ses textes en anglais pour que ça soit le plus performant possible aussi. Donc je crois que ça me choque pas.
Et s'ils le font bien, il n'y a aucun problème. Mais j'ai vu Papa Wemba il y a deux ans.
Oui. Attention, ça va casser.
Et c'était pénible. Enfin, c'était pénible. Enfin, c'était il faisait de la chanson française, il faisait j'étais tout et n'importe quoi. C'était honteux.
Alors
c'était...
ça s'est plaire à quel prix, enfin, voilà. Tu veux, parce que
les Africains, ils sont très kitsch. Donc s'ils veulent être européens, ils le sont trop. Et souvent, ça le fait pas du tout, je trouve. Hein. C'est souvent le cas.
Bah, c'est une question qui nous permet un petit peu d'annoncer ce qu'on fera demain à la même heure, hein, puisqu'on a de nouveau un débat demain autour des musiciens, de leur envie de séduire le public ou pas. Voilà, on en reparlera demain.
Musique alternative. Voilà. D'ailleurs, j'ai envie de constater aussi que ce que vous expliquez depuis tout à l'heure, c'est que la musique du monde est en soi une musique alternative et de fait dans la représentation médiatique. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette... affirmation.
Dans la représentation médiatique, bien sûr, c'est-à-dire que ce sont des musiques qui sont nécessairement alternatives puisqu'elles sortent de leur contexte en général pour être écoutées par d'autres, sinon on ne parlerait pas de musique du monde. Donc d'ailleurs, la plupart des gens disent que la musique du monde, ça commence au-delà de la frontière, et ne s'inclut pas dedans. Mais oui, si, je crois que c'est alternatif, et j'aime beaucoup l'exemple que tu disais avec Youssou N'Dour, qui pour moi est un exemple magnifique, parce que si Youssou N'Dour a deux répertoires, deux discographies, une pour chez lui et une pour son public international, je trouve ça extrêmement intelligent, extrêmement significatif d'une certaine manière, parce que ça veut dire qu'il a compris que c'est pas les mêmes publics, ça veut dire qu'il a compris que ce ne sont pas les mêmes objectifs. Il a cette finesse, je dirais, et d'un côté cette intelligence aussi, parce qu'il y a un répertoire avec lequel il gagne bien sa vie et un répertoire avec lequel il réinvestit d'une certaine manière auprès des siens, et je trouve ça, c'est un exemple particulièrement intéressant de ce qu'on peut faire en musique dite du monde.
Alors avant de vous laisser, on a une tradition ici dans la radio, on va envoyer le jingle et je vous explique tout de suite.
Et maintenant, la question à Violaine. La question à Violaine.
Alors, la question à Violaine, c'est tout simplement un questionnaire à la Proust, en quelque sorte. Il y a un chapeau à poils là qui est là. Et que tous les invités qui rentrent ici...
Ça craint, ça.
Voilà. Tu as compris, Philippe. Donc, vous tirez chacun une question et vous y répondez.
Et on doit y répondre. On ne peut pas changer de question.
On a toujours un joker, là. Moi, je l'ai pas
utilisé. Vraiment, les invités, quoi.
On commence
par qui? Allez, par Benjamin. Tu lis ta question.
La qualité que se préfère chez un homme, que je préfère chez un homme. La calidad que prefiero en un hombre.
C'est en trois langues. Hein. On prévoit tout ici.
Est-ce qu'on peut peut-être d'abord faire les questions? Comme ça, j'ai un petit peu de temps pour réfléchir.
D'accord.
Non, chez un homme, je vais prendre l'homme, l'homme comme l'être humain. Et je crois que c'est simplement le fait d'être honnête.
L'honnêteté.
L'honnêteté.
Étienne, je garde le meilleur pour la fin.
C'est ce que j'aurais dit à sa place. Tiens, moi, j'ai la question, c'est le don de la nature que je voudrais avoir. Être musicien, il n'y a rien de plus simple.
Ah, c'est ça, en fait. C'est ça, l'histoire.
Être bon musicien.
Ça, c'est un peu plus vague, je vous envie. C'est mes héroïnes dans l'histoire. C'est pas évident.
Hein. Non, ça, c'est dur.
Je pourrais dire ma mère, mais elle ne m'écoute pas, elle n'a pas Internet. Quoi.
Non,
je
ne sais
pas. Je pensais plus à... Voilà... Non, c'est pas héroïne. Bah, Billie Holiday. Enfin, c'est pas vraiment des héroïnes. Ouais. J'ai pas vraiment de héros, des phares comme ça. C'est vrai que les grandes dames, ouais, bah ouais, Billie Holiday, Sharon Jones, Naomi Shelton. Mm. Puis, ouais, voilà, c'est à peu près tout.
Ok, bah.
C'est vache, hein, quand même, Violaine.
Violaine, elle est à côté si vous voulez aller la voir après ses questions. Merci beaucoup, Philippe Monge du Soir, Benjamin Tollet.
Hein, en tout cas,
et
bien
Étienne,
sympa.
Je répète quand même ce que j'ai dit tout à l'heure. On va essayer de mettre un petit rappel pour l'émission Terre de Son qui avait lieu sur Musique 3. Et j'avais envie de dire comme ça, je n'en ai pas parlé hors antenne, hein, je vous jure, chers auditeurs, auditrices, mais j'ai très envie que cette émission continue et pourquoi pas inviter Étienne à la réaliser. Hors Musique 3, qu'on la poste sur internet, donc je veux dire, on peut continuer des émissions et continuer aussi s'il y a des auditeurs, et comme tu disais que tu avais reçu une centaine de mails, pourquoi pas continuer l'aventure ailleurs que sur le service public s'il est défaillant.
Bien sûr, rien n'est décidé. Il y a même pas 4 semaines que j'ai appris que cette émission était supprimée, donc rien n'est décidé. Je pense que la décision est prise, d'autant que je constate que le directeur ne supporte pas que les auditeurs s'expriment. C'est très intéressant aussi, d'ailleurs, ça. Il semblerait que j'ai mobilisé les détracteurs systématiques du service public pour nuire, je cite, à la RTB et à la chaîne Musique 3. Voilà, je cite ce qu'un directeur m'a envoyé comme mail. Donc c'est extrêmement curieux.
Enfin, moi, de toute façon, j'avais jamais contacté la RTBF. Donc, je l'ai fait là.
Tu l'as fait.
Dans ce cas-ci. Mais j'avais jamais fait avant, hein, donc.
Moi aussi, je t'ai pas fiché. Enfin, si, sur la tranche matinale, j'avais déjà relevé 2-3 conneries.
Non, donc, je n'ai pris aucune décision. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais me reposer, tiens. Non, je ne sais pas ce que je vais faire, mais on verra, on va en discuter. Mais je n'ai pas fini de m'exprimer sur la musique, en tout cas.
Très bien, on vous donne rendez-vous sur radio.esperanza.be où vous retrouvez tous les podcasts, et y compris le podcast de cette émission, dans 2 heures maximum. Emeric ?
Ben voilà, annoncer la plage musicale avec laquelle on va se quitter. Il s'agit d'un peul de Mauritanie et qui s'appelle Soldier Ems. Il est réfugié politique en Belgique, donc voilà, je pense qu'il faut aussi soutenir, qu'il s'exprime. Voilà, on se quitte donc avec Soldier Ems. Merci encore aux invités.